Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Mes chers amis, qu'il me fait plaisir d'être avec vous ce matin pour vous parler de cette parole de Dieu-là. Quel immense privilège, vous savez, pour nous qui avons le... Quel immense privilège et responsabilité nous avons de venir ici le matin pour parler de la part de Dieu, de communiquer ce que Dieu a mis dans nos cœurs pour vous édifier, vous transformer, vous tenter, comme disait Paul, par tous les moyens de vous faire grandir dans la foi. Donc, j'estime toujours que c'est un immense honneur et privilège que Dieu nous fait de pouvoir être là ce matin. Alors, je souhaite la bienvenue à tout le monde. Je souhaite une petite bienvenue aussi à ceux qui sont sur vidéo présentement et qui regardent la vidéo quelques semaines ou quelques jours après. Bienvenue à vous aussi. On pense à vous également qui regardez cette vidéo-là. Alors, le message de ce matin, vous l'avez à l'écran. Ceux qui étaient à l'église de Victoriaville, je pense qu'il y en a deux, trois, c'est le même message, mais un petit peu changé, mais pas beaucoup. Donc, ils se reconnaissent, sont à l'avant, quelque part en avant, là, ici, là. Et ça va être votre occasion de l'entendre une deuxième fois. Si vous n'avez pas compris la première fois, bien là, c'est votre chance. Alors, allons tout de suite dans un mot de prière et nous allons demander à Dieu de nous aider ce matin. Grand Dieu, nous courbons sur toi, envers toi, près de toi. Nous comptons entièrement sur toi pour nous ouvrir les oreilles, nous ouvrir l'intelligence, nous ouvrir les esprits, nous ouvrir les âmes à ta douce parole qui est là. Ce matin, je sais, Seigneur, que Jésus, toi-même, tu vas nous parler, tu vas nous communiquer des paroles de ta vérité, pris à partir de ta sainte parole, les saintes écritures qui est la Bible. Seigneur, je sais que cela est puissant. Ta parole à toi, pas le prédicateur à l'avant, mais toi comme grand Seigneur. Viens nous conduire dans tout cela, grand Jésus. Amen. Ce matin, nous sommes dans un texte, dans un livre de la Bible rarement pris, et c'est le livre des Nombres. Donc, je vous invite à tourner dans votre parole, dans votre sainte parole de Dieu, dans le livre des Nombres au chapitre 21. Donc, le livre des Nombres, chapitre 21. Et comme on dit, de temps en temps, rien de mieux qu'un exemple. Le livre des Nombres, ça se trouve à peu près ici dans votre Bible, vers le départ. Ah, j'ai tombé dans Lévitique, un petit peu à côté. Donc, vous avez, après Lévitique, Nombres. Nombres, chapitre 21. Si je demandais spontanément à plusieurs personnes ici, que parle le livre des Nombres? À part de dire, il y a des nombres dedans, bon, on serait peut-être un peu mélangé, parce que c'est clair que ce n'est pas un livre qu'on va souvenir. Néanmoins, il se retrouve là-dedans des perles fantastiques. Et nous en avons une perle ce matin, dans le chapitre 21, versets 1 à 9, sera notre texte. Juste avant de vous lire ce texte, j'aimerais vous dire le contexte de cette situation. On est environ vers 1406 avant Jésus-Christ, le peuple hébreu est dans le désert. Il est dans le désert parce qu'il a refusé d'entrer dans le pays promis qui est le pays d'Israël. Pendant 40 jours, des espions avaient exploré ce pays. Ils sont revenus et ont donné leur rapport au peuple. La plupart ont dit, « Non, ils sont grands, on ne peut pas rentrer là, on va se faire démolir. » Deux d'entre eux ont dit, « Non, c'est un beau pays rempli de miel et de lait. Regardez les grappes de raisin que nous ramenons, c'est fantastique. La prospérité de ce pays et cette beauté. » Néanmoins, le peuple prit peur et n'écouta pas ses rapports positifs, écouta le négatif et Dieu les punit en disant, « Vous avez exploré pendant 40 jours. » ce beau pays que j'ai promis à Abraham, votre père, et vous le refusez, désormais vous allez marcher pendant 40 ans, une année par jour d'exploration dans le désert. Vous allez vous promener dans ce désert-là et vous allez comprendre des choses. C'est le contexte de notre texte ce matin. Et nous le lisons à l'instant, Nombre, chapitre 21, versets 1 à 9. Le roi cananéen d'Arad, qui habitait le Négueb, apprit qu'Israël venait par le chemin d'Atarim. Il combattit Israël et fit des captifs. Alors Israël fit un vœu à l'Éternel et dit, « Si tu livres ce peuple entre mes mains, je vouerai ces villes à l'interdit. » L'Éternel écouta la voix d'Israël et livra les Cananéens. On les voua à l'interdit, eux et leurs villes, et l'on nomma ce lieu Horma. Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer des Joncs pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route, parla contre Dieu et contre Moïse. « Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et nous sommes dégoûtés de ce pain misérable. » La manne. Alors l'Éternel envoya contre le peuple les serpents brûlants. Ils mordirent le peuple, et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple se rendit auprès de Moïse et dit, « Nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. » Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, « Fais-toi un serpent brûlant, et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le contemplera, conservera la vie. » Moïse fit un serpent de bronze et le plaça sur la perche. Et si quelqu'un avait été mordu par un serpent et regardait le serpent de bronze, il conservait la vie. Quel texte fantastique! Quel moyen de Dieu pour nous apprendre des choses pertinentes pour nous. Les premiers trois versets, 1 à 3, qu'est-ce qu'ils nous enseignent? Ça va relativement bien pour Israël. Il y a eu des captifs à un moment donné, ils ont prié Dieu, Dieu répond, ils rentrent dans une ville, ils vouent tout à l'interdit, ils remportent une brillante victoire. Dieu a répondu à leur prière. Ça va bien. Est-ce que ça va durer? Non. Parce que les Hébreux sont un peuple au cou raide et qui oublient rapidement les bénédictions dont ils ont été l'objet. Dès le verset 4 et 5, suite à cette victoire, le peuple entreprend un long détour. Pourquoi ce détour-là? C'est parce que le peuple d'Édom a dit auparavant dans la Bible, il a dit, « Vous n'allez pas passer par mon territoire. Je ne veux pas vous passer par chez nous. » Il y avait eu des supplications. « Laissez-nous passer par trois fois, si je ne me trompe pas. » Néanmoins, le peuple d'Édom, « Non, vous n'allez pas passer par ici. » Donc, le peuple d'Israël se ramasse à faire un immense détour dans un désert aride. C'est un peu comme si vous vouliez aller à Saint-Hyacinthe. Je vous donne un exemple. Et le pont de la Violette, le pont de Trois-Rivières, est bloqué. Puis, il se trouve que le pont de Montréal, tous les ponts de Montréal sont bloqués aussi, puis les ponts de Québec aussi. Puis le traversier, là, quelque part, qui est à Saint-Ignace, de Loyola ou quelque chose comme ça, il ne marche pas non plus. Là, tu te ramasses à faire le détour par l'Ontario là, pour aller à Saint-Hyacinthe. Mettons ça pire pour aller à Drummondville. J'ai rien contre Drummondville. Voyez-vous, Qu'est-ce qui est arrivé? Ils s'impatientent. Le texte de Dieu nous dit, ils s'impatientent. Ils sont pareils comme nous autres. Moindrement qu'on fait un détour. Oh non! Comment c'est qu'il nous fait passer dans cette route graveleuse-là? Ça va poquer mon char. Je peux pas rouler à 110, je peux pas venir rouler à 50. Ça me prend donc bien du temps. Ma vie est anéantie. Je viens de prendre 30 minutes, perdre 30 minutes dans ma vie aujourd'hui. C'est épouvantable. Ce sont des impatients. Ils aimeraient avoir leur chemin normal, ils ne l'ont pas et ils chialent. Nous, on est aussi un peu de temps en temps impatients. Hein? Quand ça ne se passe pas tout de suite comme ça, on a un problème. Hey, haute vitesse à cette heure. Hey, basse vitesse. On est plus, l'Internet basse vitesse. On n'est plus capable d'aller là-dedans. Voyons donc. C'est inacceptable. Puis même haute vitesse, quand tu pèses sur le piton puis que la page n'apparaît pas tout de suite, qu'est-ce que c'est ça, ce système-là? Tout de suite, faut le temps de downloader, on n'en veut pas. Puis le micro-ondes, c'est donc bien long. Hein? Avez-vous déjà essayé de faire décongeler une soupe au four micro-ondes? Clown, 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 t'arrêtes pas de peser sur le piton. 3-4 minutes pour faire dégeler une soupe au micro-ondes. La technologie, c'est pourri. Voyons donc, tu devrais peser, ça serait tout de suite. On est des impatients, nous autres aussi. On aime ça quand ça vient tout de suite. Pas d'attente. Pauvre peuple d'Israël, ils ont 40 ans à se promener dans le désert. Vous avez tout votre temps. Perdre 10 jours, il n'y en a pas de problème. Il t'en reste des milliers de jours encore à te promener. Oh non, on n'aime pas ça. Donc, nos ancêtres et nos cousins, les Hébreux, parce qu'on leur ressemble un peu, s'impatientent et parlent contre Dieu et contre Moïse. Il y a deux choses qui chialent. Hey, on est parti d'Égypte. On était bien en Égypte, puis là, on est ici dans le désert. Puis pire à ça, on n'a pas d'eau, puis on n'a pas de nourriture. L'impatience fait perdre la tête aux Hébreux. C'est un peu comme une femme qui veut divorcer de son mari parce que le mari a laissé une barre de savon traîner dans la salle de bain et puis a pilé dessus. Paraît-il, c'est déjà arrivé, le prétexte d'une femme pour divorcer, ça avait été ça. « J'ai t'as laissé la barre de savon! » Ça, ça a été la goutte qui a fait déborder le vase. Les Hébreux ont aussi leur barre de savon. C'est ce détour-là qu'ils font. C'est qu'est-ce qu'ils font déclencher toute leur impatience et toute leur colère envers Dieu et contre Moïse. Pauvres Hébreux, quand tu commences à penser qu'est-ce qu'il y avait dans leur vie, ils chialent, « Ah, pourquoi nous avoir fait sortir d'Égypte? » Te souviens-tu qu'est-ce que tu faisais en Égypte? Tu faisais des briques à longueur de journée. Tu n'avais même pas de paille, tu étais fouetté à part de ça. Quelle belle vie! Oh, je m'ennuie-tu d'être fouetté, puis d'avoir des briques? Que la vie misérable dans le désert! Leur vie était continuellement menacée en Égypte. Puis là, ils demandaient d'être libérés, puis là, ils sont libérés, puis là, ça ne marche pas. C'est un peu comme le célibataire qui était célibataire pendant des années de temps. Puis tout d'un coup, il trouve une femme. Puis après quelques années, il dit, « Seigneur, qu'on était bien célibataire. » Il regrette le passé. « Oh, que j'étais bien quand j'étais célibataire. » Puis il ne se souvient pas qu'il criait à Dieu, « Oh, Seigneur, donne-moi une femme. » Et pourtant, les Écritures disent, « Quand tu trouves une femme, tu vas trouver le bonheur. » Ça, c'est qu'est-ce qu'on appelle marcher par la foi. Bien entendu, c'est pas vrai, c'est une blague. Quand on trouve une femme, on a trouvé le bonheur. Les Hébreux chialent aussi sur leur supposé manque d'eau et de nourriture. Ils chialent la bouche pleine et le ventre plein. Parce que Dieu les nourrit continuellement dans le désert, continuellement. Ils n'ont même pas besoin de travailler, ils n'ont pas besoin de semer. Ils savent qu'à tous les matins, il va y avoir de la manne. Assez pour la journée. Il n'y en a pas de problème. Oh non, encore de la manne le matin. Sur le menu, manne. Le lendemain, manne, manne, manne. Oh, que c'est plate. Vous savez, on est un peu tout comme ça de temps en temps. On a des belles choses, puis on abandonne ces belles choses-là pour espérer avoir mieux. Il y a toutes sortes de choses qu'on y pense qu'on a abandonnées. On était bien, puis dans l'espérance d'avoir mieux, on a été dans qu'est-ce qui était moins bon. Je connaissais quelqu'un qui restait dans un certain endroit, puis qui a décidé de déménager. Puis ça, il pensait que c'était pour lui donner le bonheur. Puis suite à ça, c'était le malheur qui est arrivé. Je pense qu'on doit apprendre à se contenter de qu'est-ce qu'on a, de voir Dieu qui nous fournit cette nourriture-là, c'est une formidable occasion de dire « Merci Seigneur, à quel point tu prends soin de moi. » Au lieu de chialer, remercions Dieu. Si on retient juste ça de ce message-là, ça ne serait pas pire. Au lieu de chialer, là, remercie Dieu pour n'importe quoi. Soyons heureux pour pouvoir manger jour après jour. Ce n'est pas un droit, ça, de manger, c'est un privilège. Vous l'avez trois fois par jour, vous pouvez manger. Sur l'heure du midi, pensez-y lorsque vous allez aller au restaurant ou chez vous. Merci Seigneur de m'avoir donné cette nourriture. Soyons un peu comme Job qui disait, « Tu as donné, tu as enlevé, je suis heureux. C'est toi le Seigneur. » Je passe également sous silence les critiques qui étaient adressées par le peuple aux leaders. Ils chiolaient contre Dieu, mais ils chiolaient aussi contre Moïse. Nous, on peut faire un peu la même affaire que nos leaders dans l'Église ici. Quand ça ne fait pas notre affaire, on est prompt à chialer. Ah, ça devrait être fait autrement. La Bible, je n'ai pas vu nulle part, moi, dans la Bible, une place qui dit « chialer contre vos conducteurs ». Je n'ai pas vu ça nulle part. J'ai vu, par contre, qu'il fallait les aimer. Aimons nos conducteurs. Chose certaine, Dieu n'est pas un spectateur indifférent à ce qui se passe dans nos vies. Regardez ce qui se passe avec les Hébreux. Ils chiolent contre Dieu et contre Moïse. Et au verset 6, Dieu va sévir d'une façon directe contre son peuple. Il va envoyer des serpents, il appelle ça des serpents brûlants, qui vont mordre les Hébreux et qui vont les faire mourir. Et mourir en grand nombre. J'aimerais prendre quelques instants pour essayer, avant d'expliquer le contexte de cette mort-là, vous expliquer à quoi pourrait ressembler le serpent qui était à cette époque-là. J'ai fait des recherches au niveau de la biologie. Et je ne suis pas, bien entendu, absolument certain du serpent que je vais vous montrer, que c'était bel et bien le serpent qui était là. Mais selon ce qu'on a pu connaître des serpents qui existaient présentement dans le désert, qui pouvaient causer la mort par une brûlure, on en arrive à une sorte de serpent. Donc, c'est plausible. Je ne vous dis donc pas, voici, c'était le serpent de Moïse, mais ça pourrait être le cas. Et ce serpent-là, c'est une vipère. Et c'est significatif que Jésus, quand il parlait à des pharisiens puis à des gens qui le rejetaient, engeance de vipère. Se faire traiter de vipère, c'est pas trop agréable généralement. Toi, mon espèce de vipère, c'est dur de trouver du positif là-dedans. J'aimerais voir les... Bon, est-ce qu'on pourrait abaisser la lumière à l'avant, s'il vous plaît, pour... Voici la tête du suspect. Bien entendu, quand ça cogne à ta porte, ce genre d'individu-là, tu n'as pas trop le goût de lui répondre. Et son nom latin est Echis, pour E-C-H-I-S, Echis. Donc, quand il frappe à la porte, tu lui dis « Echis qui est là? » Lui, il répond « Echis! Echis qui est là? Echis! » Autre diapo. voici son allure. Eh bien, il y a un avantage, il est très mince. Hein. Lui, il ne souffre pas de problèmes de poids, sauf quand il mange quelqu'un. Ça, c'est certain qu'il grossit du ventre. Donc, un très sympathique individu, même il bouge sur l'écran, c'est incroyable. Donc, autre diapo. Autre diapo, s'il vous plaît. Oui, et qui veut votre bien, parce que vous aviez sans doute remarqué qu'il y a comme une espèce de langue sur le bout qui bouge et qui est prêt à vous saisir. Autre diapo. Voici en plus de détails. Il n'est pas beau de tirer la langue, on n'y a pas dit, mais le voici en pleine action. Autre diapo. Quand il arrive pour vous mordre, ça ressemble à ça. Donc, vous voyez ces crocs à l'avant et les deux traces rouges qui montent, c'est comme les vaisseaux qui emmènent le venin pour vous paralyser et vous faire brûler. OK, autre diapo. Encore une fois, notre ami qui est là. La suivante. Et également, il y a un déplacement un peu spécial. Il se déplace en avançant et de côté. OK? Donc, ça fait assez traite. Quand il s'approche vers toi, il ne s'approche pas direct. Il s'approche en se tassant. Donc, c'est encore assez particulier de ce côté-là. Donc, on retient l'idée, je ne suis pas sûr que c'était vraiment un serpent, mais c'est pour vous donner au moins une indication de qu'est-ce qu'on avait. Diapo suivante, s'il te plaît. Merci. Les serpents que Moïse avait affrontés étaient mortels. Quand ils sont mordus, la mort va arriver. Devant un tel état de fait, ça incite les cœurs à se changer. J'aimerais qu'on revienne en arrière, s'il vous plaît. Merci. Dès qu'on commence à avoir une action de Dieu dans notre vie comme ça, qu'on a vraiment une misère qui nous frappe, ça peut emmener des changements dans notre vie. C'est un peu ce que les Hébreux vont vivre. Dès le verset 7, ils réalisent le péché qu'ils ont commis et demandent pardon. Ils vont voir Moïse et se repentre de leur péché. Le chemin normal de la punition est de nous faire réaliser des choses. Dieu a pleinement le droit de nous punir, de nous châtier. Nous sommes ses créatures. Il n'y a rien d'étonnant là-dedans. Dieu a pleinement le contrôle, peut faire ce qu'il veut. Vous savez, Dieu est même un peu sarcastique là-dedans. Il se plaignait de faim, il se plaignait de ne pas boire, il avait la gorge brûlante. Dieu leur envoie des serpents qui les brûlent, qui les fait mourir. Vous vous plaignez que vous mourrez, vous allez vraiment mourir. Un autre chemin normal de la souffrance, et lorsqu'elle survient, c'est de demander qu'elle s'éloigne loin de nous. Le peuple fait exactement la même chose. Le peuple demande « Éloigne-moi ce mal, éloigne ces serpents-là loin de nous. » Parce que s'ils sont loin de nous, ils ne vont pas nous mordre, on va être corrects. Ça, c'est un autre chemin normal de l'homme. On ne veut pas trouver les moyens à l'intérieur ou en Dieu pour lutter, mais claire-moi qu'est-ce que j'ai comme problème. C'est un peu comme un voisin. Une prière qu'on pourrait faire, c'est « Seigneur Dieu, éloigne-le, un mauvais voisin, éloigne-le le plus loin que tu pourrais penser. » Souvent, Dieu ne répond pas à ce genre de prière-là. Dieu, au contraire, donne des moyens pour faire face à ces souffrances-là, à ces difficultés. C'est exactement ce qu'il va faire aujourd'hui dans le texte, dans notre histoire. Il dit à Moïse, « Fais-toi un serpent brûlant et mets-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. » C'est quand même quelque chose d'assez puissant. Ce verset, bien entendu, mérite une attention particulière. fais-toi un serpent brûlant. Il n'y a aucun modèle précis. Ce n'est pas lorsque Dieu a parlé à Moïse, lui a demandé, fais-toi un tabernacle dans lequel les dimensions étaient connues, les étoffes étaient connues. Dans ce cas-ci, on a, fais-toi un serpent, il n'y a pas de modèle précis qui a été déterminé par Dieu. On comprend, bien entendu, c'est parce que ce n'était pas plus important qu'à ce que le serpent ressemblait, mais l'idée était de pouvoir le regarder. Au cours des siècles, de nombreux artistes ont tenté de représenter à quoi pourrait ressembler ce serpent, à quoi il pouvait avoir l'air. Et j'ai retracé sur Internet un certain nombre de ces représentations-là. Encore une fois, je tiens à vous dire que je ne sais pas si une de ces choses-là correspond à la vérité ou non, mais c'est simplement pour pouvoir se l'illustrer visuellement. Donc, j'aimerais qu'on passe avec ces photos. Voici ici une représentation d'un artiste. En fait, c'est présentement dans un musée et on voit une perche avec un serpent qui est enroulé. C'était son imagination. Un autre ici, c'est Michel-Ange dans la chapelle Sixtine de Rome. Et on voit un peu le même concept, une perche ici avec un serpent enroulé. Et vous voyez des représentations avec des serpents qui enroulaient les gens également. Des serpents sont présents également dans le haut ici. Autre diapo. Ici, on voit un peu la même idée dans laquelle on voit une perche, mais là, il y a comme un travers en haut et le serpent est représenté. Deux autres illustrations. On voit Moïse ici qui est en train de montrer l'installation qui est là avec le serpent sur le bout. Et vous avez même parfois vous regardez, c'est quasiment épeurant à regarder là, qu'est-ce qui avait été fait de l'autre côté à droite. Autre diapo. Deux dernières illustrations qui se rapprochent de plus en plus à un modèle de quoi, si on peut dire, hein, dans lequel on voit encore une fois le serpent qui est là, un serpent de bronze, soit en passant, donc en fer métal, et vous en avez un autre qui est là, dont on voit les invitations à regarder au serpent. Autre diapo. Merci. On arrête ici. Premièrement, la forme du serpent n'est pas importante. Ce qui est important à saisir, c'est que si tu regardes ce serpent, tu seras guéri. C'est un peu étonnant, vous savez, d'avoir un serpent sur une perche comme ça. Si vous avez le sida et qu'on vous demandait pour être guéri du sida, vous devrez regarder le virus du sida sur une perche, ça va être un peu étonnant. N'est-ce pas qu'on ne devrait peut-être pas regarder le vaccin ou le remède? Eh non, c'est la nature même du mal qui te touche que tu dois regarder. Très surprenant. On voit aussi que c'est une perche. On n'a aucune assurance à quoi ressemblait la perche. Est-ce que c'était une couette? Est-ce que c'était un poteau? Est-ce qu'il y avait des travers? On ne le sait pas. On ne sait même pas également comment le serpent était enroulé en forme sur cette perche et à quelle position qu'il était. Tout ce qu'on sait, il était plutôt élevé pour permettre à un maximum de personnes de pouvoir voir sur ce serpent. Et voici maintenant où ce qu'on en est rendu avec un aspect très important de cette prédication-là. Quiconque aura été mordu, qui le regardera, conservera la vie. L'offre de guérison est pour tous, sans aucune exception. Il n'y a aucune condition de Dieu à cette guérison. Je suis vieux, je ne peux pas y aller, ce n'est pas une raison. Je suis jeune, je suis en santé, je ne peux pas y aller, non. C'est disponible à tous. J'ai beaucoup péché, pas de problème. Il n'y a aucune condition de Dieu pour regarder ce serpent. Et je pense aussi, pour accentuer l'offre de Dieu, pourquoi qu'il l'a placé haut? C'est justement pour qu'un maximum de personnes puissent regarder à ce serpent et obtenir la guérison. Dieu voulait vraiment la guérison de son peuple. La Bible déclare que quiconque regardera le serpent conservera la vie. Tous ont accès à son moyen de guérison. Tout ce qu'il faut, c'est de croire et dire, « Moi, je crois que de regarder ce serpent, que je serai guéri. » C'est tout ce qui est nécessaire. Selon les études que j'ai pu faire avec le serpent Échis que vous avez vu, la vipère, c'est un serpent dont les effets sont assez traîtres. Les effets du serpent peuvent survenir après 3-4 jours. Donc, pendant les 3-4 premiers jours, tu peux te sentir très bien et tout d'un coup, tu dégrades et tu meurs. Donc, les 3-4 premiers jours, tu peux te dire, ça va pas si mal que ça. Pourquoi que j'aurais affaire à regarder un serpent? Et on peut supposer qu'un certain nombre d'Hébreux n'ont pas pris cette décision-là de regarder le serpent et qu'ils ont simplement eu la conséquence de la punition de Dieu en étant mort dans le désert. C'est très étonnant de voir, mes chers amis, que parfois des offres aussi évidentes de la vie et que les gens disent non. Que devant un grand danger ou une grande maladie, les gens ont un moyen de s'en sortir facile et pourtant, ils disent non. Que c'est surprenant. J'aimerais vous donner 3 exemples de cela. Vous avez probablement en tête ou entendu parler l'histoire de l'homme que lors de graves inondations, l'eau montait dans sa maison à un point tel qu'il était rendu sur le toit de sa maison. Les canaux viraient près de lui, les hélicoptères étaient là, et l'homme ne voulait pas partir de sa maison. Il disait, « Non, moi, je suis capable de rester ici. L'eau va baisser, c'est ma maison, je ne veux pas m'en aller. Personne ne va me faire partir de ma maison. » Cet homme-là, je pense, est mort dans son entêtement à vouloir rester dans sa maison. Quel étrange choix! Que c'est bizarre! J'ai vécu un exemple personnellement d'un choix extrêmement bizarre comme ça dans ma vie. C'était en avril 1988. J'étais étudiant à l'Université Laval. Je demeurais dans une résidence pour étudiants. Et j'étais sur le point de graduer. Il me restait un examen à faire. Mon habit de graduation était dans mon garde-robe. J'étais prêt à être gradué dans 2 jours. Mais à 5h15 du matin, je pense que c'était le 26 avril 1988, la cloche d'incendie rejaillit avec une force incroyable dans la résidence. Tellement incroyable que là, tu te dis, voyons, ça ne peut pas être une fausse alerte, là. En premier, on pense tout le temps que c'est une fausse alerte hein, quand l'alarme sonne. Mais ça sonne à un point de démolir les tympans. Là, tu te demandes, c'est-tu vrai? Qu'est-ce que je fais? Puis là, il est 5h15 du matin, puis tu penses à ton bal de finissant, puis il me reste juste un examen, puis il est 5h15, t'es comme frappé, là. Ça sonne de partout. Là, tu entends des gens courir dans les couloirs. Là, tu te dis, ah, peut-être une gang qui ne connaissent rien, ils se sont fait pogner, puis ils débarquent, ils s'en vont. Puis ça, c'est pas ça. Les agents de sécurité montent et disent, c'est pas une fausse alerte, c'est pas une pratique. C'est vrai. La bâtisse est en feu, descendez au plus sacré, ramassez rien. Là, tu prends une décision, tu as 2 choix. Tu restes dans ta chambre ou tu décolles au plus sacré. J'ai pris la décision de décoller au plus sacré. Là, tu es comme dans un rêve. Tu dis, c'est pas d'allure. Là, tu vois du monde courir dans un couloir. Là, tu descends dans un couloir. Tu descends dans l'escalier. Là, tu vois la fumée monter. Puis tu sais pas qu'est-ce qui va arriver. Tu descends les escaliers. Plus que tu descends, plus que la fumée est intense. Là, tu dis, voyons. Puis là, ça commence à être dur à descendre. Parce que là, tu te dis, ça va être où sont les flammes? La fumée devient de plus en plus intense. Et surtout, dans le même moment, il y a un gars qui remonte. Par en bas, il dit, hey, les portes sont barrées en bas. Ouh! Que c'était épeurant. On passe au niveau du septième, c'est là que c'est le pire. La fumée épouvantablement, t'as envie de sortir de là. Et dès le sixième, ça commence à devenir moins pire. Le cinquième, on descend. Et finalement, je me ramasse dehors. Il fait peut-être 2 ou 3 degrés. Je suis en petit gilet. Je pense que je suis en pyjama. Tout ce que j'ai eu le temps de ramasser, c'est mon portefeuille puis mes clés. Je n'ai pas de gilet. Il fait froid dehors, je vous jure, c'est épouvantable. C'est ça que je me souviens. Et plutôt qu'il faisait froid. Mais au moins, je suis sorti. Était-ce un choix intelligent? Bien sûr que oui. C'était ça qu'il fallait faire. Est-ce que tout le monde a pris cette décision-là? Ben non. Il y a un gars qui, lui, était au 9e. Là, on se rappelle, je vous explique un peu le contexte. Le feu est au 7e. Donc, le feu est en montée, bien entendu. Or, il se trouve qu'il y a un gars qui est au 9e étage. Moi, j'étais au 9e aussi. 9e ou 10e étage. Qui lui dit, voyons donc, c'est quoi cette folie-là? C'est encore une affaire de pratique. Puis là, tout le monde, il criait, sors, 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 c'est pas une pratique. Lui, il ne croit pas ça, il va se recoucher. Puis là, quand il réalise que la fumée rentre dans sa chambre, il dit, sont-ils assez malades d'avoir installé des bonbonnes pour me faire croire que... Il rouvre ça, la porte est chaude. Là, il commence à se sentir chaud, lui aussi. La porte, puis c'est des chambres d'étudiants, là. Il y a une porte pour sortir. Si tu n'as pas cette porte-là, tu es faite. Il dit, qu'est-ce que je fais? Autre diapo, s'il te plaît. Ah, va plus loin un petit peu. Encore une fois. Okay. C'est pas grave. Un peu plus loin. On se reprendra. Pas plus grave que ça. On va finir l'histoire comme ça. Donc, on est dans un. Continue, un plus loin. Finalement, je change d'idée comme le gars qui était dans la pièce. Mais j'aimerais ça vous montrer physiquement à quoi que ça ressemble. L'autre diapo, non, ça ne marchera pas. Il en manque une. J'aimerais ça qu'on remette où ce qu'on était. On oublie ça, je finis mon histoire. Donc, le gars est au 10e étage d'une pièce, il est dans une résidence, et tout ce qu'il a comme moyen, c'est de sortir par la fenêtre au 9e étage. Et il se ramasse sur des petites corniches d'à peu près ça de large. À 100 pieds d'hauteur. C'est le genre de corniche que dans des moments délirants d'étudiants, on se disait, hey, à un moment donné, il faudrait faire un trip pour aller se ramasser sa corniche, parce qu'on avait accès par la fenêtre. Néanmoins, on ne l'a jamais fait parce que c'était bien trop malade de faire ça. C'était fou. Ça n'avait aucun sens. Donc, le gars, en toute précipitation, s'en va sa corniche à 5 heures du matin, il fait moins 2, moins 3, en petite culotte, avec une serviette sur le dos. Et là, les médias arrivent et tout le monde filme ce gars-là. En petite culotte, au 10e étage, l'exemple même du gars qui n'a pas écouté. Puis là, les pompiers montent avec leur grande échelle. Là, les gars, ils disent « Sauvez-moi! Sauvez-moi! » Ça passait à la télévision dans le temps, cette affaire-là. Les gars disent « Penses-tu qu'on va aller te sauver? On a une bâtisse à sauver du feu. On va s'occuper de la bâtisse avant de toi. Tu avais juste à sortir avant. Reste à corniche. » Le gars, il était gelé. Ça n'avait aucun sens. Quel exemple de stupidité! Quel mauvais choix que ce gars-là a fait! Ça n'a aucune allure. Devant l'évidence, il prend la mauvaise décision, puis fait rire de lui. Une chance que YouTube n'existait pas dans ce temps-là, il aurait passé dessus plusieurs fois. J'aimerais vous donner un autre exemple d'une situation un peu désespérante, d'une mauvaise décision. Et c'est une histoire qui a eu lieu dans ma famille et qui s'est passée en mai 1898. OK? C'est dans la famille. Là, vous voyez, là, c'est des traits familiaux. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que le 7 mai 1898, à 5 heures du matin, encore une fois, il arrive un éboulis d'une terre, sur la terre paternelle. c'est qu'il y a une rivière avec beaucoup de terrain argileux et il y a un très grave éboulis qui se produit. De telle manière que la maison, l'éboulis approche et la maison va tomber dans l'éboulis. Qu'est-ce qui arrive? Il y a Donna qui arrive. Donna, 14. J'ai envie de le compter drôle, puis en même temps, c'est immensément triste. On va essayer de rire, puis de pleurer en même temps. Donc, Donna arrive, il y a 14 ans, puis il dit, « M'allez sauver ma petite sœur qui est dans la maison, puis mon petit frère qui est un bébé. » Mais l'éboulis est sur le point d'embarquer la maison dans le ravin. Il rentre en courant dans la maison. Va chercher sa petite sœur qui a tous les yeux poqués, il est très de bonne heure le matin, qu'elle a 7 ans, je pense qu'elle s'appelait Lucie. Et il prend le petit bébé, que je pense être mon grand-père, parce que ça fait pas mal des années. Donc, il prend le petit bébé, puis il dit à sa sœur, « Vite, lève-toi, il faut vite sortir, l'éboulis s'en vient. » Puis là, la petite sœur, oui, elle est toute fatiguée, puis elle se lève debout. « Vite, il faut sortir tout de suite. » Là, ça débouline dans les escaliers pour sortir. Lui, il a le bébé dans ses bras. Puis, il a juste 14 ans, là. Une vraie vedette, qu'on y pense. Ça s'appelait Donna Douville. Et malheureusement, la petite fille, qui s'appelle Lucie Douville, rendue au milieu de l'escalier, trop fatiguée, remonte l'escalier et s'en va se coucher. Donna franchit le seuil de la porte. Quelques instants plus tard, la maison tombe dans l'argile et son corps n'a jamais été retrouvé. Jamais été retrouvé. Histoire vraie. Parfois, on est un peu devant des situations évidentes qu'on devrait prendre les bonnes décisions, on ne les prend pas. Ça, c'est deux exemples qu'on est là. Ça nous amène au point crucial que je veux vous parler ce matin. Là, je ne sais pas où ce qu'on est rendu sur la présentation. Allons-y. J'aimerais vous parler premièrement de ce qui est arrivé au serpent d'airain. Le serpent d'airain, pour certaines places maintenant, est devenu comme une sorte de lieu de pèlerinage aussi incroyable. On a fait quasiment, sans dire, un idole, mais on a une place ici qu'on a une représentation, la photo est récente. Autre diapo, s'il te plaît. Vous avez la franc-maçonnerie, que, si je ne me trompe pas, a 35 degrés, je ne suis pas un spécialiste là-dedans, mais a 35 degrés de connaissance ou d'évolution. Le 25e, ça s'appelle le chevalier du Brazen Serpent. Ça veut dire le chevalier du serpent d'airain, du serpent de bronze. Vous voyez, c'est comme une représentation d'aqua avec des mots hébreux, avec le serpent qui est représenté. C'est juste pour vous dire à quel point qu'on peut emmener la réalité spirituelle dans un autre niveau. Autre diapo. Heureusement, dans le cas du serpent d'airain, mais heureusement et malheureusement, pendant 700 ans, le serpent d'airain a été conservé par le peuple d'Israël. Il a été conservé et tellement qu'à un point, il avait été mis dans le temple lui-même, et il était comme adoré. Il y avait des offrandes qui étaient faites à ce serpent-là. Il avait même donné un nom à ce serpent-là après tout ce temps-là. Regardez, on a un exemple. Et ce bon roi-là, qui était Ézéchias, 700 ans après les événements dans Moïse, a dit, « Détruisez-moi ce symbole d'idolâtrie-là. Vous allez me scraper ça. Sortez-moi ça. » Autre diapo. Un autre. Maintenant, le texte biblique de Jean nous dit, l'application concrète de toute histoire-là prend naissance dans Jésus. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Autre diapo. On va faire une brève comparaison du serpent avec Jésus. Vous allez voir à quel point Jésus est supérieur en tout point. Le serpent. Pourquoi qu'on a eu un serpent d'airain? Parce qu'il y a eu une rébellion des Hébreux. Ils étaient rebelles à Dieu. La morsure du serpent équivalait à quoi? À la mort terrestre. on a vu qu'il a été élevé sur une perche afin d'être visible pour un maximum de personnes. Ce n'est pas caché, c'est disponible pour tous. Le serpent était de la même nature que le mal qui frappait les Hébreux. La guérison qu'elle procurait était celle, la guérison du venin que le serpent avait donné aux Hébreux. L'effet était de conserver la vie. L'offre était à tous les Hébreux, comme on l'a vu, requérait une seule chose, de regarder au serpent élevé, rien d'autre. Et finalement, on constate que ce serpent-là n'était que temporaire. Et pourquoi? Parce qu'il était un non-vivant. La preuve qui était temporaire, elle a été démolie par un bon roi qui a dit « on met fin à cette idolâtrie après toutes ces années-là ». Voyons maintenant Jésus. Lui aussi, pourquoi Jésus est venu sur terre? Parce que c'est à l'origine de la rébellion de l'homme, de la même manière que nos ancêtres. La rébellion par quoi? Par le péché, par se détourner de Dieu, ne pas vouloir écouter Dieu. Tout le monde ici, si vous vous posez la question, est-ce que moi je fais de la rébellion avec Dieu, envers Dieu, ne te pose même pas cette question-là. La réponse est oui. Tout le monde a péché et tous sont privés de la gloire de Dieu que déclare l'Écriture. La morsure du péché, qu'est-ce qu'elle procure? La mort éternelle, pas la mort terrestre, la mort éternelle, loin de Dieu, plongée dans un étang de feu que nous dit les Écritures. Jésus a été élevé sur une croix, lui aussi. Jésus a été fait péché, que nous déclarent les Écritures, comme le serpent. Jésus amène la guérison du péché. Amen. Merci Seigneur. Jésus donne la vie éternelle. Merci aussi Seigneur. Et cette offre, elle est à tous, sans aucune exception, parce que Dieu aime l'ensemble de l'humanité. Il ne veut que personne ne périssent, mais que tous soient sauvés. Cette offre, il n'y a qu'une seule condition. Elle requiert que nous regardions à Jésus-Christ pour le salut. Et finalement, l'offre de Jésus est permanente, valide dans tous les temps pour une raison, parce que Jésus est vivant. Il est vivant aujourd'hui. Autre diapo, s'il te plaît. Le bon roi Ézéchias, et j'aimerais terminer presque là-dessus, il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Il fit disparaître les hauts lieux, brisa les statues, abattit les idoles et mit en pièces le serpent d'airain, comme Moïse avait fait, car les enfants d'Israël avaient jusqu'alors brûlé des parfums devant lui. On l'appelait Nehushtan. Au lieu de cela, Ézéchias mis sa confiance à l'Éternel. Aujourd'hui, de la même manière, on est appelé à faire confiance à Dieu. L'œuvre du salut de Jésus-Christ, elle est disponible pour tout le monde. Et tout comme il aurait été un peu spécial de dire non à ne pas regarder au serpent d'airain dans l'époque, bien, présentement, le même choix est devant nous. Pourquoi rester dans la mort éternelle? Pourquoi ne pas regarder à Jésus-Christ? Peut-être que ce matin, vous avez des barrières. Vous vous posez la question, pourquoi regarder à Jésus? Ici, vous savez, on ne vend pas une religion. On ne vend pas une église en particulier. Il y a une seule chose qui nous intéresse vraiment, c'est le salut en Jésus-Christ. Monsieur, nous assurer que tous ont la possibilité de dire oui à ce magnifique salut. Et ce matin, alors que les musiciens reviennent à l'avant, s'il vous plaît, nous allons nous recueillir ensemble. Et pendant le temps du chant que nous allons avoir ensemble, je vais vous inviter à regarder dans votre cœur. regardez si, finalement, est-ce que vous avez regardé à Jésus-Christ pour votre salut? Est-ce qu'il y a des idoles présentement qui vous empêchent de venir à Jésus? Est-ce qu'il y a des choses qui vous arrêtent? Jésus, vous savez, son amour est disponible à tout le monde sans aucune exception. Il n'y a aucune raison de dire non à Jésus-Christ. Il n'y a aucune raison de se ramasser sur la corniche. Il n'y a aucune raison de se ramasser dans l'éboulis qui descend par en bas. Jésus vous aime. Et s'il y a des gens pour toutes sortes de, qui seraient intéressés, qui veulent prendre une décision pour Dieu ce matin, il n'y a pas de gêne. Nous allons nous courber pendant le temps du chant qui va être fait par nos musiciens. S'il y a des gens qui veulent prendre position pour Dieu et de regarder à lui, faites-le dans votre cœur. Si vous voulez, vous pouvez lever la main par la suite. Je n'irai pas vous voir pour vous dire hey, qu'est-ce qui s'est passé. Mais si vous voulez venir me voir par la suite, je suis disponible. Chantons ce chant et si vous avez une décision, vous pouvez le signifier en regardant cet amour précieux de Jésus-Christ. Et ce magnifique chant nous amène à penser à Dieu, à penser à son amour pour nous. Le salut de Dieu est disponible à tous par le grand amour que Dieu a donné. Seigneur grand Dieu, merci de nous avoir habités. Merci parce que tu nous aimes énormément et que le péché, tu as été là pour le vaincre et qu'il n'y a rien qui peut remplacer la guérison que tu produis de ce mal, de la rébellion de Dieu, par ton grand amour en la foi en Jésus-Christ. Amen.